À voix nue, Christophe Onodibio.
Salman Rushdie, écrivain.
Épisode 4, Renaître en Amérique. Bonjour Salman Rushdie.
Hello, afternoon.
Nous évoquions hier votre vie clandestine. Vous décidez d'en finir avec cette vie clandestine en vous installant à New York en l'an 2000. Nous sommes ici avec vous dans votre maison à New York. Est-ce que vous pourriez décrire la pièce dans laquelle nous parlons?
Well, we are sitting in my living room.
Nous sommes assis dans mon salon.
There's a certain number of books.
Il y a un certain nombre de livres. En fait, la plupart des livres dans cette pièce sont des ouvrages non romanesques, des biographies, tout ça. Les livres de fiction et tous les autres se trouvent à l'étage, au rez-de-chaussée, un peu partout. J'ai un certain nombre d'œuvres d'art indiennes. Le tableau derrière vous est l'œuvre d'une merveilleuse artiste indienne, Arpita Singh. Celui qui se trouve derrière moi est de Francesco Clemente. Et celui qui se trouve à ma droite est l'œuvre d'une grande artiste afro-américaine, Kara Walker. Oui, je vis ici depuis longtemps. Je vis ici depuis plus de 20 ans.
Derrière, il y a une sorte de lion aussi.
Oui, oui.
Cette figure de bois vient du sud de l'Inde, en fait du Kerala. Il y a beaucoup d'architecture en bois au Kerala. Elles intègrent des figures de divinité. C'est ce qu'on appelle un yali. Un yali est un dieu du seuil. C'est un dieu que l'on place aux entrées et aux sorties. On demande la bénédiction du dieu en entrant et en sortant. C'est aussi un dieu des commencements. Donc si vous commencez un projet quelconque, vous demandez la bénédiction de Yali.
Ah, c'est bien parce qu'on a commencé cette interview à côté du Yali, donc c'est, donc c'est parfait. Pourquoi avez-vous décidé de partir pour New York?
Well, it's two reasons. One is that when I was young,
pour deux raisons. La première, c'est que lorsque j'étais jeune, je suis venu à New York pour la première fois, alors que j'avais une vingtaine d'années. Je suis tombé amoureux de cette ville. Je suis un enfant de la grande ville. Je suis très attiré par les villes. J'ai grandi dans une grande ville, Bombay. Quand ce n'était pas encore Mumbai. Lorsque je suis arrivé à New York, j'ai senti que c'était l'endroit qu'il me fallait d'une certaine manière. C'était un New York différent. Il était beaucoup plus pauvre et donc beaucoup moins cher. Les jeunes, les artistes pouvaient vivre et se permettre de vivre dans le centre de Manhattan. Soho était plein de peintres, de musiciens, d'écrivains, etc. Et je me suis dit, ah, c'est vraiment cool. Je me suis dit qu'un de ces jours, j'allais venir m'installer ici et voir ce qui se passerait.
Est-ce qu'il n'y avait pas aussi une raison assez essentielle, c'est qu'en Europe, vous étiez obligé d'être protégé. C'était différent à New York, on ne vous obligeait pas.
Non, c'était plus facile ici, parce que je pouvais prendre mes propres décisions. Je n'avais pas de la sécurité qui s'imposait à moi.
Vous en aviez assez de cette sécurité?
Je pensais que c'était plus nécessaire. Le monde avait changé, les choses avaient évolué. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis venu ici et j'ai pu mener à nouveau une vie parfaitement ordinaire dont j'avais été privé pendant une décennie.
Est-ce que cette ville de New York représente aussi pour vous un refuge? Évidemment, quand on imagine New York, on visualise la Statue de la Liberté, ce qui était la première chose peut-être que voyaient les migrants quand ils arrivaient. Est-ce que pour vous, New York et liberté vont ensemble? Quand vous êtes arrivé pour vous installer à New York, est-ce que vous avez dit enfin, je renoue avec ça, avec la liberté?
J'ai eu l'impression que c'était un moyen de retrouver une vie libre.
Et donc, j'ai aussi été involved.
Je me suis également impliqué dans des organisations d'écrivains, notamment Pen America, qui se bat au nom de la liberté des écrivains dans d'autres pays. Je pensais qu'on avait beaucoup fait pour me défendre. et qu'il était temps de rendre l'appareil.
I became president of Pan America after a few years.
Je suis devenu président de Pan America après quelques années. Et pendant cette période, l'une des choses dont je suis le plus fier, c'est que nous avons pu créer un festival littéraire international, le Pen World Voices Festival. Il m'a semblé très étrange que cette ville, entre toutes, n'ait pas de festival littéraire international. Et je me suis dit qu'il fallait en créer un.
Est-ce que New York est comme Bombay, une sorte de, d'océan d'histoire dans lequel vous avez pu vous plonger aussi? Est-ce que c'est inspirant comme, comme matière? Parce que vous parliez des œuvres d'art indiennes, de cette statue un peu, cette sorte de fauve de bois qui est derrière vous, le Yali. Vous avez eu besoin de faire venir l'Inde aussi dans ce New York pour avoir encore plus d'histoires à raconter?
Yes, you're right, I mean, to some degree. Also,
oui, vous know, avez raison, dans une certaine mesure. Il y a aussi beaucoup d'Indiens qui vivent
ici.
Certains de mes meilleurs amis ici sont des écrivains indiens.
Kiran Desai,
la fille d'Anita Desai, elle-même lauréate du Booker Prize. Et Sukhetu Mehta, qui a écrit un livre merveilleux, un livre de non-fiction sur Bombay, Maximum City, et Amitava Kumar, et ainsi de suite. Il y a une petite communauté d'écrivains indiens ici, qui sont devenus comme une bande.
Un nouveau gang. Et cette ville verticale, elle n'écrase pas l'imagination, justement.
Bombay est aussi verticale. Tout va bien. J'aime les gratte-ciels de New York. Pas tellement les nouveaux. Les nouveaux sont laids. Ces créatures longues et minces qui n'ont aucun caractère.
Et la statue de la liberté, est-ce que vous l'aimez alors?
Oh,
bien entendu. C'est le don que nous avons eu de la France.
Ce n'était pas un symbole de liberté au départ, d'ailleurs.
Non, à l'origine, lorsqu'elle a été envoyée de France, c'était un symbole des Lumières.
La liberté éclaircit le monde. That's what it's called.
C'est comme ça qu'on l'appelle.
That's why she has a torch.
C'est pour cela qu'elle a une torche.
La torche est la lumière.
La torche, c'est la lumière.
Then,
ensuite,
for a long time,
pendant longtemps,
New York City had no idea what to do with it.
La ville de New York n'a pas su quoi en faire.
It remained in the boxes,
elle est restée dans les caisses, en pièces détachées,
quite a long time,
pendant très longtemps. Et finalement, ils ont choisi cette île,
which now is called Liberty Island, but it
qui s'appelle aujourd'hui l'île de la liberté, Liberty Island. Ce qui s'est passé, c'est que ce poème a été composé et inscrit sur le socle de la statue. Ce poème parle de la liberté.
The poem is "Bring me your poor, you know, your huddled masses yearning to breathe free."
Le poème dit: donnez-moi vos pauvres, vos masses innombrables aspirantes à vivre libres. Je dresse ma lumière au-dessus de la porte d'or. Cela signifie que l'Amérique est l'endroit où l'on vient pour être libre.
Vous disiez que vous aviez publié Fury, hein, c'est ça, le 11 septembre 2001. Vous étiez à New York ce jour-là?
I was not here that day. I mean, I was living here.
Je n'étais pas là ce jour-là. Je vivais déjà ici. Je venais d'entamer une tournée pour mon livre. En fait, le 10 septembre, j'ai organisé un événement à Houston, Texas. Et le matin du 11, j'étais dans ma chambre d'hôtel. Et j'avais accepté de donner une interview à la radio depuis ma chambre d'hôtel.
Much earlier than the time we had agreed.
Le journaliste m'a appelé, bien avant l'heure convenue, il m'a dit: je suis désolé, mais à cause de ce qui se passe à New York, on ne peut pas faire l'interview. Je ne suis pas assez américain pour allumer la télé dès mon réveil. Et j'ai dit: bah, qu'est-ce qui se passe à New York? Il m'a répondu: allumez cette foutue télé. J'allumais la télé juste à temps pour voir le deuxième avion. C'était terriblement triste. Et comme beaucoup de gens, je suis resté devant, je ne pouvais pas m'asseoir. Je suis resté debout devant la télé. J'ai regardé cette catastrophe. Et puis il y a eu ce moment terrible où on s'est dit qu'il n'y avait plus rien. La tour n'est plus là. Je ne peux pas vous dire ce que j'ai ressenti. Ensuite, pendant un certain temps, j'étais bloqué à Houston parce que tous les avions étaient cloués au sol. Il n'y avait aucun moyen de voyager. Ça a duré quelques jours. Finalement, lorsque les avions ont été autorisés à revenir à New York, je suis rentré à la maison. L'un des spectacles les plus terribles que j'ai jamais vu, c'est survoler Manhattan
you know, where the towers had been.
Et voir ces colonnes de fumée
the fire went on burning.
À l'endroit où se trouvaient les tours, parce que le feu continuait à brûler.
And, I wrote afterwards in Joseph Anton that
j'ai écrit par la suite dans Joseph Anton que j'avais l'impression que ce qui m'était arrivé était la première note de la musique.
And what happened on September 11 was the ugly, dark symphony.
Et ce qui s'est passé le 11 septembre était l'horrible symphonie sombre. Je comprends la force qui a conduit à cet événement. Les deux événements, ce qui m'est arrivé et ce qui est arrivé à New York, étaient liés dans mon esprit.
Est-ce que c'est pour ça, justement, que s'est produit à New York cette nouvelle vie de défenseur de la liberté d'expression? Il y a quelque chose qui frappe beaucoup votre ami Roberto Saviano, l'auteur de Gomorrah, qui lui est menacé de mort, mais par la mafia. Il dit, Salman, il a eu le courage de recommencer à vivre, tout en se battant hein, pour les valeurs, pour la raison, mais il a eu le courage de recommencer à vivre. Finalement, ce courage-là, il a été décuplé par le danger qui se mettait à frapper New York à nouveau.
You know, I stopped thinking about danger. I started thinking about life.
Écoutez, j'ai cessé de penser au danger. J'ai commencé à penser à la vie.
I met Roberto Saviano in New York for the first time.
J'ai rencontré Roberto Saviano à New York pour la première fois.
Home of a mutual friend of
chez un de nos amis communs, un journaliste italien.
By this time, I was
à ce moment-là, moi, j'arrivais en taxi, je partais me promener dans un parc, j'étais un citoyen ordinaire. Et Roberto, lui, il est arrivé entouré par le FBI. Et j'ai pensé, pauvre homme, j'espère que tu t'en sortiras. Puis, quand il est parti, je suis descendu avec lui. Et les agents de sécurité avaient formé deux rangs comme un couloir. Et il a dû marcher dans ce couloir d'agents de sécurité jusqu'à la voiture. Je me suis dit, c'est bien pire que tout ce qui m'est arrivé. Bien pire. Je pense que sa vie a été plus difficile.
Vous avez été l'un des premiers, hein, je tiens à le rappeler, en 2006, à le défendre et à mettre toute votre autorité, votre pouvoir, pour essayer d'alléger aussi un peu son sort et de clamer l'injustice aussi qui lui arrivait. Vous avez tenu aussi, vous parliez du PEN America, ce club d'écrivains très célèbre. Vous avez tenu à défendre Charlie Hebdo, alors même que le PEN America était divisé. Il a été question aussi de donner une récompense à Charlie Hebdo, bien après l'attentat pour la défense de la liberté d'expression. Mais vous avez tenu dès le départ à condamner, alors que même en France, il commençait à y avoir des débats. Est-ce qu'ils ne sont pas allés trop loin? Le fameux « oui, mais », la théorie du « oui, mais ». D'accord, ils ont le droit de s'exprimer, mais ils sont peut-être... Voilà. Ce qu'on vous avait dit aussi à vous, le « oui, mais ». Qu'est-ce qui a justifié que vous preniez autant position pour Charlie Hebdo?
By the time of the Charlie Hebdo attack,
au moment des attentats contre Charlie Hebdo, je n'étais plus président de PEN America. Je n'avais plus de fonction officielle.
They have a thing that they call a courage award.
Ils ont une chose qu'ils appellent le prix du courage, qu'ils décernent chaque année à une personne ou un organisme littéraire. Ils avaient décidé de remettre ce prix à Charlie Hebdo, que certains des survivants de l'attentat viendraient le recevoir. Et puis à ce moment-là, il y a eu des gens qui ont soulevé des objections, qui ont dit parce que Charlie Hebdo était anti-islamique, ça ne devrait pas se produire. Je me souviens que Le Monde avait fait une étude de 10 années de couverture de Charlie Hebdo, des premières pages. Le nombre total des couvertures consacrées à l'islam était de 6, tandis que les couvertures consacrées au pape ou à Sarkozy se comptaient par centaines. C'est clair, c'était pas un magazine qui attaquait systématiquement l'islam. Il attaquait tout le monde. Et j'ai dit aux gens, si nous ne pouvons pas défendre des gens qui ont été tués pour avoir fait des dessins, alors pourquoi sommes-nous ici? Rentrons tous chez nous. Nos collègues ont été assassinés pour avoir fait des dessins. Et ces dessins ont été accusés d'être irrespectueux. Oui, bien sûr, ils étaient irrespectueux. Comment dessiner une caricature politique respectueuse. Il n'existe pas de caricature respectueuse. La forme elle-même est irrespectueuse. Alors, soit nous acceptons l'irrespect, soit nous l'acceptons pas. Et nous ne sommes certainement pas d'accord pour que des gens soient assassinés pour ça. Pour moi, il n'y avait pas de question, là. Il n'y avait rien à discuter. Et je me suis senti très déçu. Certains des écrivains qui défendaient l'autre point de vue étaient de bons amis à moi. Des amitiés ont été brisées à cause de cette question. Il y a des gens que je ne vois plus depuis l'affaire Charlie Hebdo. Oui, c'était une affaire grave.
Il y a un mot qui vous agace beaucoup, Salman Rushdie, c'est le mot « islamophobie ». Pourquoi est-ce que vous ne le supportez pas, ce mot ?
I think it's okay to dislike ideas.
C'est normal de ne pas aimer des idées.
You know, I think one of the essentials of free speech is that you should be able to say when.
Un des principes de base de la liberté d'expression, c'est de pouvoir dire que si vous avez des idées que je n'aime pas, je devrais pouvoir le dire. Et si moi j'ai des idées que vous n'aimez pas, vous devriez pouvoir le dire aussi.
And just because those ideas are wrapped up in the idea of God.
Et ce n'est pas parce que ces idées sont emballées dans l'idée de Dieu.
That shouldn't make them protected.
Qu'elles doivent être protégées.
No, if I strongly dislike a religion, I should be free to say so.
Si je déteste une religion, je devrais être libre de le dire.
Believers in that religion should be free to argue.
Et puis les croyants de cette religion devraient être libres d'argumenter.
So the idea that you the word Islamophobia.
L'idée, le terme islamophobie
says that it is wrong.
Indique donc qu'il serait mal de ne pas aimer cet ensemble particulier d'idées.
Well, I mean that's a point of
view. Mais ce n'est qu'un point de vue.
But it's not. It seems to me something that should be used in the sloganized way that it's now used.
Mais il me semble que ce n'est pas quelque chose qui devrait être utilisé sous forme de slogan comme c'est le cas aujourd'hui.
Ces années new-yorkaises, Salman Rushdie, ont fait de vous un symbole, hein, un véritable symbole de la liberté d'expression. Est-ce que vous ne préfériez pas, rester un écrivain sans être symbolique?
Yes.
C'est comme s'il y avait deux Salman Rushdie à nouveau.
Yeah, I don't think myself, I'm
oui,
not a symbol.
Je ne me considère pas comme un symbole, je ne suis pas un symbole.
That statue in the harbor is a symbol.
Cette statue dans le port est un symbole.
Sometimes writers...
Parfois, les écrivains se voient imposer ce fardeau.
One of my good friends was the great Israeli writer Amos Oz.
Un de mes bons amis était le grand écrivain israélien Amos Oz. Amos souffrait d'avoir été nommé écrivain national.
Having to write the story of Israel, you know, and I thought how awful that must be.
Il devait écrire l'histoire d'Israël. Je me suis dit que ça devait être terrible de se voir imposer cette chape, que votre imagination n'était d'une certaine manière inhibée. Je ne veux pas porter d'autre fardeau que celui d'écrire de bons livres.
Oui, mais en même temps, vous savez que le combat, vous le disiez, n'est pas terminé. Donc en fait, il y a une partie de vous qui le sait, ça.
Yeah. Well, the thing is, I can't deny that my life has been what it has been. I might not have chosen this life, but this is the life I've had.
Je ne peux pas nier que ma vie a été ce qu'elle a été.
Not just that it gives me a platform,
je n'ai peut-être pas choisi cette vie, mais c'est celle que j'ai eue.
Because the argument is not
la conséquence de cela. C'est pas seulement que ça me donne une tribune, mais ça me donne une envie de continuer à débattre, parce que le débat n'est pas terminé. De nombreux écrivains dans de nombreux pays sont en danger, bien plus que moi, parce qu'ils vivent dans des pays qui les attaquent.
Then one must do it.
Si on peut faire quelque chose pour soutenir, encourager et les défendre, alors il faut le faire.
Et puis il y a un autre Salman Rushdie qui préférerait peut-être écrire dans son bureau au-dessus de nous.
Yeah, no, that's all. I mean, really,
vraiment, si j'avais le choix,
way,
je resterais assis dans mon bureau et j'inventerais des récits. C'est la raison pour laquelle je suis devenu écrivain. Et c'est toujours la raison pour laquelle je veux être écrivain. Je ne veux pas être
Joan of Arc.
Jeanne d'Arc.
Vous avez demandé la nationalité américaine. Pour quelle raison il fallait devenir un citoyen?
I wanted to vote.
Ah.
Je voulais voter.
Pourquoi c'est important de voter?
Well, in one word, Trump.
En un mot, Trump.
Donc vous avez fait un personnage. Enfin, vous ne dites pas que c'est lui. Mm-hmm. Dans la maison Golden.
Yes, I
called him. Vous appelez le Joker.
I called him the Joker, like the Batman villain. Mm. Yes.
Oui, oui. But je l'ai appelé le Joker comme le méchant de Batman. La première élection à laquelle j'ai pu voter, c'était Hillary Clinton contre Trump.
And I lost.
Et j'ai perdu.
I really didn't believe.
Je ne croyais vraiment pas que cela allait se produire.
Cette Amérique-là, incarnée par Trump, mais par d'autres personnes aussi, elle vous inquiète parce qu'on parlait de la statue de la liberté d'expression, des Lumières, mais il y a une autre Amérique qui n'est pas du tout cette Amérique des Lumières.
Exactly.
Elle vous inquiète, cette Amérique?
Yes, it's very worrying. And,
oui, c'est très inquiétant. Le pays est très divisé. La division est si radicale qu'il est difficile de voir comment ça va se terminer. Il y a un nombre choquant de personnes qui ont perdu la capacité de faire la distinction entre vérité et mensonge. Ils ont été nourris quotidiennement par l'aile droite. Ils croient ces mensonges. Comme la moitié des électeurs républicains américains qui pensent que les dernières élections ont été volées, alors qu'elles ne l'ont manifestement pas été. Le vote a été compté de manière très complète et honnête. Et Trump a perdu.
Oui, mais il y a cette Amérique-là d'extrême droite, mais vous avez été d'ailleurs très critiqué, enfin aussi applaudi que critiqué, quand vous avez signé cette tribune dans le Harper's Bazaar, hein, c'était le 7 juillet 2020, avec plein d'autres écrivains, hein, d'ailleurs, de toutes les nationalités, de toutes les communautés, parce que là, vous étiez, avec cette tribune, vous fustigiez le camp dit progressiste, la cancel culture. Au fond, est-ce que vous diriez que extrême gauche, extrême droite aux États-Unis mènent le même combat liberticide?
I think there's a point at which the extreme left and the extreme right meet in the middle. You know, they become the same thing.
Il y a un point où l'extrême gauche et l'extrême droite se rejoignent au même point. Elles deviennent la même chose. Ce qui est préoccupant, c'est que la force, l'impulsion de la censure venait principalement de l'aile droite et principalement des personnes plus âgées. Les jeunes croyaient en la liberté, les jeunes étaient dans l'ensemble plus libéraux que leurs parents et grands-parents. Aujourd'hui, ce sont les parents et grands-parents qui sont libéraux. Et les enfants, la jeune génération, sur de nombreux sujets, est en faveur de la censure, en faveur de l'interdiction de certains types de discours. Pendant ce temps, la droite tente toujours de censurer les choses, d'interdire des livres, des bibliothèques, etc. Aujourd'hui, la pression vient des deux côtés. Le grand sujet, qui est la liberté, se trouve au milieu, attaqué de part et d'autre.
Qu'est-ce que vous pensez avoir transmis de plus important à vos deux fils?
Eh
bien, je suis heureux de pouvoir dire qu'ils sont tous deux athées.
So I managed to protect them from religion.
Et donc, j'ai réussi à les protéger de la religion.
Ça, c'est le plus important, ça.
Well, I think I would have been disappointed if they were.
Je pense que j'aurais été déçu s'ils étaient religieux.
Mais pourquoi? Ça peut être un secours aussi.
Well, because you know, I've had some trouble with religion in my time.
Eh bien, vous savez, j'ai eu quelques problèmes avec la religion dans le passé.
They're not religious, and I think
quoi qu'il en soit,
I'm happy about that.
Ils ne sont pas religieux, et je pense que j'en suis heureux.
Alors, il y a une émission, une série télévisée absolument drôlissime qui s'appelle Curb Your Enthusiasm. Que les Françaises et les Français ne connaissent pas, où vous avez joué votre propre rôle, où vous jouez, alors le personnage de l'émission a provoqué des fondamentalistes, sa tête est mise à prix, alors il va vous voir et vous lui donnez un conseil, en disant mais ne t'inquiète pas, en fait, la fatwa te nimbe d'une sorte d'aura qui va te rendre sexy auprès de toutes les filles, et vous l'emmenez dans un bar, et effectivement, les filles offrent des verres, salut Salman Rushdie. C'était une façon, cette ironie, de prendre de la distance ou de ridiculiser, au fond, tous ceux qui vous en voulaient.
Ce qui s'est passé, c'est que Larry David est un humoriste très célèbre ici. Et c'est une série qui passe déjà depuis très longtemps, dans laquelle il joue le rôle de quelqu'un qui s'attire constamment des ennuis pour ce qu'il dit. Et dans cette série, il écrit une pièce imaginaire inspirée de ce qui m'est arrivé et qui lui vaut des ennuis avec un religieux islamique imaginaire.
And he said, look, we're doing this and would you like to be in it?
Il m'appelle, moi je le connaissais pas, il me dit, écoutez, on est en train de faire ce truc-là, est-ce que vous voulez en faire partie? D'abord j'ai pensé, est-ce que c'est vraiment drôle? Peut-être que c'est pas drôle. Et puis, je me suis dit, si on arrivait à s'amuser avec, si on pouvait en faire un sujet de comédie, ça serait une sorte de victoire, un dépassement. Alors j'ai dit oui, je vais le faire. Et je me suis bien amusé. Je voulais être acteur quand j'étais jeune, je vous l'ai dit. Et de temps en temps, j'ai la chance de retrouver un peu de cela dans ma vie. J'aime bien ça.
Vous avez joué dans Bridget Jones, d'ailleurs.
Oui, j'ai joué dans Bridget Jones.
La fatwa, Salman Rushdie, ne vous a peut-être pas rendu sexy comme dans Curb Your Enthusiasm, mais elle vous a rendu amoureux dans Le Couteau, le livre que vous publiez en ce printemps 2024 en France et qui regroupe le récit et les réflexions que vous ont inspiré la tentative d'assassinat du 12 août 2022. Vous racontez à la fois le bonheur retrouvé avec Rachel Eliza Griffiths, hein, votre femme maintenant, écrivaine, poétesse, photographe. Vous racontez aussi que, alors que la fatwa semble un mauvais souvenir, vous recommencez à faire des rêves, à faire des cauchemars.
Ces cauchemars ne sont pas très fréquents. Il y en a eu quelques-uns. Je rêvais d'être attaqué. Le cadre n'est pas contemporain, c'était comme dans l'Empire romain, au Colisée, avec des gladiateurs et leurs lances. Ça m'est arrivé quelques fois. Et je comprends pourquoi ça s'est produit. Parfois, les rêves sont le moyen pour le cerveau de se débarrasser de certains éléments. Vous en rêvez, vous en débarrassez. Je ne crois pas aux prophéties. Je ne pense pas qu'ils prédisent l'avenir. Je pense que c'est une façon de gérer le passé.
Et en plus, c'est une arme blanche et c'est un amphithéâtre, une arène, comme ce qui va se passer à Shotoka le 12 août.
That's true. I had that dream 2 days before.
C'est vrai, j'ai fait ce rêve deux jours avant d'aller à Shotoka. Et vous avez raison, la conférence que j'allais faire et l'attaque se sont produites dans un amphithéâtre contemporain, mais c'est le même genre d'endroit.
Nous allons en parler avec vous pour le dernier épisode de cette À Voix Nue, Salman Rushdie. Merci beaucoup. Au revoir, Salman Rushdie.
Au revoir à vous.
C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Sébastien Royer, traduction Michel Zlotowski, réalisation Angélique Thibault, une série de Christophe Onodibio avec le concours du magazine Le Point, à réécouter et podcaster sur franceculture.fr et l'application Radio France.